Chapitre 4. Je connaissais les bateaux d'après les tableaux. J'en avais entendu parler dans les histoires. Ils étaient dorés et aussi immenses que des léviathans, leurs bastingages incrustés d'ivoire et de cornes. Traînés par des dauphins souriants ou manœuvrés par un équipage de 50 néréides aux cheveux noirs et au visage argenté comme la lumière de la lune. Le mât de celui-ci avait la finesse d'un arbuste. Sa voile déchirée pendait de travers, ses flancs étaient couverts de réparations. Je me souviens de la façon dont ma gorge se contracta lorsque je découvris le visage du marin. Il avait la peau burinée et brillante de soleil. Un mortel. L'humanité se répandait à travers le monde. Des années avaient passé depuis que mon frère avait trouvé ce coin désert propice à nos jeux. Je restais debout derrière une avancée de la falaise, à observer l'homme qui dirigeait son embarcation, évitant les rochers et tirant sur ses filets. Il ne ressemblait en rien aux nobles apprêtés de la cour de Minos. Il avait de longs cheveux noirs, emmêlés par les embruns. Ses vêtements étaient élimés, son cou plein de croûtes. Sur ses bras, des cicatrices indiquaient les endroits où il s'était blessé avec des écailles de poisson. Il ne bougeait pas avec une grâce surnaturelle, mais fermement, proprement, telle une coque bien taillée qui fend les vagues. J'entendais mon pouls battre férocement dans mes oreilles. Je repensais à ces histoires de nymphes enlevées et maltraitées par des mortels. Toutefois, le visage de cet homme avait la douceur de la jeunesse, et ses mains qui ramassaient sa pêche me parurent lestes et non cruelles. Et puis mon père, appelé le Veilleur, se trouvait dans le ciel au-dessus de moi. Si j'étais en danger, il viendrait sûrement. L'homme était déjà parvenu près de la côte, scrutant l'eau à la recherche de poissons que je ne voyais pas. Je pris une grande inspiration et avançai sur la plage.
« Salut, mortel !»
Il batailla avec ses filets, sans les laisser tomber pour autant.
« Salut !»
répondit-il.
« À quelle déesse ai-je l'honneur ?»
Sa voix douce me fit le même effet apaisant que les vents d'été.
« Circé !»« Ah !»
Son visage resta soigneusement neutre. Il me confia bien plus tard que c'est parce qu'il n'avait jamais entendu parler de moi et qu'il craignait de m'offenser. Il s'agenouilla sur les planches rugueuses.
« Très vénérable dame, ai-je fait intrusion dans tes eaux ?»«
Non. Ceci est-il un bateau ?»
Diverses expressions indéchiffrables traversèrent ses traits.
« Oui.
J'aimerais naviguer dessus. »
Il hésita avant de commencer à se rapprocher de la grève, mais comme je ne savais pas attendre, je marchais vers lui dans les vagues pour me hisser à bord. Le pont était chaud sous mes sandales et son mouvement plaisant, une ondulation légère qui me donna l'impression de chevaucher un serpent.
« En avant !»
lançai-je. J'étais si empruntée, drapée dans une dignité divine dont je n'étais même pas consciente. Et il l'était plus encore. Il tremblait lorsque ma manche effleurait la sienne. Ses yeux fuyaient dès que je m'adressais à lui. Choquée, je me rendis compte que je connaissais ses gestes, pour les avoir accomplis des centaines de fois, devant mon père, mon grand-père et tous ces dieux puissants qui traversaient mes jours en trombe. La grande chaîne de la terreur. « Oh non !» le rassurai-je. « Je ne suis pas comme ça. » « Je n'ai presque aucun pouvoir et je ne peux pas te faire de mal. Détends-toi, reste comme avant. »«
Merci, aimable déesse. »
Il prononça cette phrase d'un ton si faible que je ne pus m'empêcher de rire. Ce fut ce rire, plus que mes protestations, qui sembla le rassurer un peu. Un moment succéda à l'autre et nous nous mîmes à parler de ce qui nous entourait. Les poissons qui sautaient, un oiseau plongeant au-dessus de nos têtes. Je lui demandais comment étaient conçus ces filets, et il me l'expliqua, s'animant au fur et à mesure, car il en prenait grand soin. Lorsque je lui dis le nom de mon père, il jeta un coup d'œil au soleil et se remit à trembler de plus belle. Mais à la fin de la journée, aucune colère céleste ne s'était abattue sur lui, et il s'agenouilla devant moi pour déclarer que j'avais forcément béni ses filets, puisqu'ils étaient plus remplis que jamais. Je baissai les yeux vers son épaisse chevelure noire brillant dans la lumière du couchant, ses épaules robustes inclinées bien bas. Une telle vénération était ce qui faisait rêver tous les dieux de notre palais. Je songeais que peut-être il n'avait pas procédé correctement, ou plus probablement que moi non plus. Tout ce que je voulais, c'était revoir son visage. « Relève-toi, » lui enjoignis-je, « s'il te plaît. Je n'ai pas béni tes filets, je n'en avais pas le pouvoir. Je suis née des naïades qui règnent seulement sur l'eau douce, et je suis même dépourvue de leurs pauvres dons. Puis-je tout de même revenir? Seras-tu là? Parce que je n'ai jamais rencontré une chose aussi merveilleuse que toi de toute ma vie. » J'étais restée debout à côté de la lumière de mon père. J'avais tenu Aétès dans mes bras, et d'épaisses couvertures en laine tissées par des mains immortelles s'empilaient sur mon lit. Mais je ne crois pas qu'avant ce moment-là, j'ai réellement eu chaud. « Oui, promis-je, je serai là. » Il s'appelait Glaucos et venait tous les jours. Il apportait du pain que je n'avais encore jamais goûté, du fromage que je connaissais déjà, et des olives dans lesquelles j'aimais le voir mordre à pleines dents. Je l'interrogeai sur sa famille et il me raconta que son père était vieux et amer, continuellement en train de tempêter et de s'inquiéter à propos de la nourriture. Que sa mère, qui fabriquait des simples, était désormais usée par trop de durs travaux et que sa sœur, toujours malade et en colère, avait déjà 5 enfants et qu'ils seraient tous expulsés de leur chaumière s'ils ne parvenaient pas à payer au seigneur le tribut attendu. Personne ne s'était jamais confié à moi ainsi. Je bus chacune de ces histoires comme un tourbillon avale les vagues, tout en parvenant à peine à comprendre la moitié de leur signification, la pauvreté, le labeur et la terreur des humains. La seule chose qui restait claire était les traits de Glaucos, son beau front et son regard honnête, un peu humide à cause de ses chagrins, mais toujours souriant avec moi. J'aimais l'observer vacant à ses tâches quotidiennes, qu'il effectuait avec ses mains et non grâce à un pouvoir éclair. Réparant les filets déchirés, nettoyant le pont de son embarcation, produisant des étincelles avec un silex. Quand il allumait son feu, il commençait laborieusement avec des bouts de mousse séchés soigneusement positionnés, puis avec des brindilles et des branches de plus en plus grosses. Cet art non plus, je ne le connaissais pas. Le bois n'avait pas besoin d'être cajolé par mon père pour s'enflammer. Il surprit mon regard et frotta ses mains calleuses, mal à l'aise. « Je sais que tu me trouves affreux. »« Non, pensais-je. Le palais de mon grand-père est rempli de nymphes brillantes et de dieux fleuves musclés, mais je préfère te contempler plutôt qu'aucun d'entre eux. » Je secouai la tête. Il soupira. « Ce doit être formidable d'être un dieu et d'avoir une peau qui ne marque jamais, » déclara-t-il. Un jour, mon frère m'a dit que ça fait la même impression que l'eau. Il réfléchit. « Oui, je peux l'imaginer, comme si on était plein à éclater, pareil à une coupe qui déborde. De quel frère s'agit-il? Tu ne l'as encore jamais mentionné. » Il est parti devenir roi loin d'ici. Il s'appelle Aétès. Son nom sonna bizarrement dans ma bouche, après tout ce temps. Je l'aurais bien accompagné, mais il a refusé. « À t'entendre, c'est un idiot, » commenta Glaucos. « Comment ça ? » ?»« Eh bien, tu es une déesse dorée, belle et bonne. Si j'avais une sœur pareille, je ne la quitterais jamais. »